Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour, c'est un fléau qui n'est plus tabou, le harcèlement scolaire. Parmi les élèves de 13 à 15 ans, 1 sur 3 déclare avoir été victime de harcèlement ou de violence. Les pouvoirs publics mènent désormais des campagnes ou adoptent des lois pour punir les agresseurs. C'est le cas en Suède, car c'est dans les pays nordiques que la question a été abordée pour la première fois par des chercheurs dans les années 70, avec le terme « bullying » en anglais. Au nord de Stockholm, un des plus vieux lycées suédois est allé plus loin, avec des mesures exemplaires, après avoir été secoué par de graves affaires de harcèlement scolaire il y a 10 ans, des réformes inclusives qui font date, car l'école des sciences humaines de Sigtuna est une référence. C'est le reportage de Carlotta Morteo.
C'est un peu Poudlard, l'école d'Harry Potter en version suédoise. Nichée sur un monticule en face d'un lac, les bâtiments scolaires, aujourd'hui recouverts d'une neige épaisse, se fondent dans la nature.
L'école a plus d'un siècle d'histoire. La personne la plus connue qui a vécu ici est l'actuel roi de Suède. Un ancien premier ministre, Olaf Palme, a également fréquenté l'école.
Carina Nilsson est le proviseur de cette prestigieuse institution où sont scolarisés 650 lycéens, dont 200 en internat.
Si je vous disais que le harcèlement n'existe pas dans notre école, je vous mentirais. Ces dernières années, des cas de harcèlement ont même augmenté. Pourtant, dans un sondage que nous faisons à la fin de chaque année, les élèves nous disent non, le harcèlement n'augmente pas, il diminue. Et quand on leur fait savoir qu'on travaille sur plus de cas, ils nous disent oui, parce que vous êtes plus à l'écoute, plus ouvert, et donc nous pouvons en parler davantage. Ce n'était pas le cas avant.
Avant que l'école mette la lutte contre le harcèlement scolaire au cœur de ses priorités. Au sein du staff, désormais, un groupe composé de surveillants, de profs, de responsables d'internat et d'agents d'entretien est spécifiquement dédié à la surveillance, l'enquête et le suivi des problèmes de harcèlement. Mazdak Sarvari, directeur des internats.
Il y avait une culture du silence. Les élèves avaient peur d'être des mouchards. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, que ce soit pour de petits ou de grands soucis, les élèves viennent nous en parler. Parce que nous avons construit une relation de confiance. Ils savent que nous sommes sérieux, que nous allons gérer le problème et agir. Quand un élève voit que ça marche, que les choses changent une fois qu'elles ont été dites, ça encourage les autres à s'exprimer.
C'est surtout à l'internat que le pire peut arriver. Les élèves y vivent à l'année, jour et nuit, week-end compris, loin de leurs proches, il n'y a donc aucune échappatoire pour les victimes. L'effet de groupe peut mener à des dérives, d'autant plus graves que les traditions de bizutage y sont les plus ancrées.
N'importe qui peut trouver sur Internet des affaires passées. Il y a aussi eu des séries télé en Suède qui se déroulent dans des internats et qui ont mis en lumière ce problème systémique du bizutage. Ça consiste en une organisation pyramidale où les plus jeunes doivent faire des choses pour les plus grands afin de monter dans la hiérarchie à mesure qu'ils grandissent. Nous avons décidé qu'il ne faut pas cacher ce phénomène, qu'il vaut mieux impliquer tout le monde pour lutter contre ça. Donc désormais, on commence l'année par une grande réunion d'information avec les nouveaux élèves et leurs parents. On leur parle ouvertement des problèmes que nous avons eus et du fait que nous avons une tolérance zéro pour l'alcool, la drogue, le harcèlement et le bizutage.
C'est ici que j'habite, avec mes 30 frères.
Grande brindille d'1m90, Axel Jäger est en dernière année. Il vit depuis 4 ans dans cette maison chaleureuse où sur les murs de l'escalier sont exposées les photos d'anciens locataires qui pour certains tiennent dans leurs mains un bouclier ou une coupe. Des symboles d'un pouvoir qualifié de dictatorial par Axel, aujourd'hui président de l'association étudiante Jätter S, dont l'objectif est la lutte contre le harcèlement scolaire.
On veut que les élèves viennent nous voir s'ils ne se sentent pas à l'aise, s'ils ont peur ou sont harcelés. Mais nous ne sommes pas des thérapeutes. Les membres de notre association sont répartis dans toutes les classes, donc si nous voyons qu'un élève est harcelé, on va le signaler pour qu'un adulte s'en charge. Notre objectif, c'est que tout le monde se sente intégré. On essaye de maintenir une bonne dynamique de groupe qui permette d'inclure aussi les plus réservés.
Grâce aux échanges entre l'équipe pédagogique et l'association étudiante, les traditions évoluent, les week-ends d'intégration notamment.
Tous les premières années, c'est-à-dire les secondes, doivent danser en portant une robe. Avant, les plus grands forçaient les plus jeunes à le faire. Maintenant, ça ressemble plus à une tradition collective. Tout le monde l'a fait de bon cœur cette année, parce que l'an dernier déjà, on l'avait fait tous ensemble.
Des rituels d'entrée plus secrets, ayant lieu la nuit, aux allures de culte, auxquels Axel avait dû se plier à son arrivée contre son gré, ont également disparu, nous dit-il. À mesure que régressent le bizutage et le harcèlement, s'instaure une culture de la parole avec de nouvelles activités de groupe plus inclusives, en passe de devenir les traditions de demain.
Ladies and gentlemen, this is a warning. Any person found to be using any form of social media during this performance will immediately be ejected. Put down your phones and listen to this.
Et le harcèlement des adolescents, c'est aussi le harcèlement en ligne sur les réseaux sociaux. C'est votre Europe du Net aujourd'hui. Clémence Pénard, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous revenez sur un cas emblématique au Royaume-Uni, celui d'une jeune adolescente qui s'était suicidée. Et pour la première fois, la justice britannique a reconnu que les réseaux sociaux sont responsables de sa mort.
Molly Russell, c'est le nom de cet ado de 14 ans qui est devenu malgré elle le symbole des dangers des réseaux sociaux. Une ado qui venait de la banlieue de Londres en proie à beaucoup de tourments. Victime de dépression en novembre 2017, elle s'est suicidée. Et l'enquête a conclu que les effets négatifs des contenus en ligne qu'elle consommait ont contribué à sa mort. C'est la première fois, effectivement, au Royaume-Uni que c'est le cas. Mais à part détailler les mesures qu'ils proposent de prendre, les géants de la tech n'ont pas eu, par exemple, à payer des dommages et intérêts à la famille. Suite à cette décision, le père de Molly, Ian Russell, a réagi. On l'écoute sur la chaîne anglaise BBC.
Il y avait des comptes appartenant à des personnes déprimées ou qui se faisaient du mal ou suicidaires. Une partie de ce contenu est choquant en ce qu'il encourage l'automutilation. Il établit un lien entre l'automutilation et le suicide. Et je n'ai aucun doute qu'Instagram ait aidé à tuer ma fille.
Alors justement, Clémence, en quoi justement les réseaux sociaux sont responsables de sa mort ?
C'est d'abord Instagram donc qui est mis en cause. La plateforme a assailli Molly de publications, toutes les plus funestes les unes que les autres, et ce dans les 6 mois avant sa mort. Au total, la jeune fille avait aimé, partagé ou sauvegardé plus de 2000 messages liés au suicide. Le réseau de visuels Pinterest aussi est dans le viseur, qui lui suggérait des images comme par exemple celle d'une fille qui s'automutilait avec ce texte, je ne peux pas vous dire combien de fois j'aimerais être morte. C'est bien simple, le contenu auquel a été exposé Molly, matin, midi et soir, était tellement dérangeant qu'un pédopsychiatre qui a collaboré à l'enquête a lui-même expliqué avoir perdu le sommeil après avoir regardé tout ça. Le problème, en fait, ce sont les algorithmes. On le constate nous-mêmes tous les jours, quand on consulte du contenu sur un thème bien précis, on vous en propose toujours plus. Alors imaginez une adolescente de 14 ans à la santé mentale fragile qui ne tombe que sur ce type de poste.
Et puis, il n'y a pas que ces flux, disons, personnalisés qui posent problème.
Oui, parfois, certains internautes vont choisir un nom d'utilisateur bien spécifique avec des mots associés à leur thème de prédilection. Une récente étude du Centre de lutte contre la haine en ligne, une organisation américaine, montre que ceux qui recherchent du contenu sur les troubles alimentaires, comme l'anorexie, vont s'appeler avec un nom contenant l'expression « perdre du poids », par exemple. Et c'était le cas pour Molly. Elle avait aussi un compte Twitter comprenant la phrase « I don't freaking care anymore », comprenez, je ne me soucie plus de rien. Alors là, le réseau identifie la vulnérabilité de l'utilisateur, en tire parti et l'exploite, même si ça veut dire monétiser le mal-être, y compris celui d'enfant. Un constat partagé par Laura Hixon-Bliss, professeure de droit pénal à l'université de Kiel, spécialisée dans les réseaux sociaux.
Il ne faut pas oublier que ces réseaux sociaux ne sont pas des entreprises publiques. Elles sont toutes privées. En fin de compte, leur but, c'est de faire de l'argent. Donc ces plateformes doivent faire plus et mieux pour s'attaquer à la question.
Et alors Clémence, depuis cette affaire, que font les réseaux sociaux ?
Malheureusement, il y a toujours des publications qui échappent aux filtres mis en place. L'affaire a au moins remis une certaine pression sur le gouvernement au Royaume-Uni pour qu'il présente un projet de loi sur la sécurité en ligne, très attendu. Et il est en ce moment même examiné devant le Parlement britannique. Au niveau de l'Union européenne, ça fait quelques temps que les 27 tentent de montrer les muscles. Ça donne le DSA, le Digital Service Act, qui entrera en vigueur dès l'année l'année prochaine. Parmi les dispositions les plus importantes, les GAFAM devront s'efforcer à supprimer tout contenu jugé nuisible. Ils devront être le plus transparents possible sur leurs algorithmes de recommandation. Sinon, la Commission européenne pourra leur infliger des amendes pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. L'Union européenne les attaque donc au seul endroit où ça leur fait mal, leur portefeuille.
À noter qu'il y a aussi des numéros d'urgence en France, le fil santé jeune pour tous ceux qui veulent appeler à l'aide et le 0800 235 236. Merci Clémence Pénard.
Merci.
À la semaine prochaine. L'Europe est la flambée des prix de l'énergie. En Allemagne, les appels aux économies semblent porter leurs fruits. Sur toute l'année 2022, la consommation n'a jamais été aussi peu élevée depuis la réunification. Les prix contribuent à limiter les appétits, mais les responsables politiques essaient aussi de montrer l'exemple. Au Bundestag, les images de députés en col roulé au Parlement ont fait mouche. À Berlin, Julien Méchaussy.
Les nouvelles directives sont tombées en plein été dernier. Le Parlement allemand et les députés doivent à leur tour participer aux efforts d'économie d'énergie. Un paquet de mesures décidées par le Ältestenrat, une commission composée des parlementaires les plus expérimentés et en charge du bon fonctionnement de l'institution. Chauffage en hiver à 19 degrés maximum, climatisation en été qui ne peut descendre en dessous des 24 degrés, et ce sont déjà 5% d'économies à chaque degré gagné. Autre mesure, les bureaux de parlementaires sont désormais privés d'eau chaude. Aux grandes dames des parlementaires qui viennent travailler en vélo, mais ce qui a permis de mettre hors service près de 2000 chauffe-eau. Rénové à grands frais après la chute du mur, le bâtiment accueille depuis 1999 l'Assemblée parlementaire sous une immense coupole transparente, laquelle est devenue le symbole de la démocratie allemande. Mais déjà à cette époque, les économies d'énergie étaient mises en avant. 3600 m2 de panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, sans oublier une climatisation durable très moderne pour son temps. Tout cela n'a pourtant pas empêché une panne du système de chauffage en novembre dernier qui a mis plusieurs jours avant d'être réparée. Confortés à la hausse des prix de l'énergie, les Allemands se sont ainsi amusés à voir ministres et députés arborer écharpes, cols roulés et même pour certains vestes d'hiver lors de leur prise de parole face à l'Assemblée. Des députés ont également confié avoir dû faire des réunions en marchant dans les couloirs pour se réchauffer.
Et en Pologne, la hausse des prix de l'électricité a entraîné la fermeture de l'Académie de théâtre, l'université qui forme les futurs comédiens. La facture de chauffage aurait été trop élevée. L'institution ferme donc jusqu'en mars et les étudiants vont devoir étudier à distance. Reportage à Varsovie de Martin Chabal.
Les apprentis comédiens de Varsovie devront apprendre à jouer depuis leur chambre. Leur université va fermer en janvier et février à cause de la hausse de près de 20% des prix de l'électricité pour cette nouvelle année. Afin de ne pas se retrouver dos au mur et en faillite, Beata Szczucińska, la chancelière de l'Académie de théâtre de Varsovie, s'est organisée dès le mois de septembre.
Les élèves et les professeurs ont leurs propres échéances et doivent organiser leur vie en fonction. C'est pour ça qu'on a décidé de réorganiser le calendrier universitaire très tôt, en septembre. Parce que les tarifs de l'électricité et du chauffage sont bien plus élevés que l'an dernier, et on ne peut pas prévoir les prix futurs, et ce même si le gouvernement a plus ou moins gelé les prix pour l'instant.
Oui, parce qu'en Pologne, depuis le début de l'année 2023, les prix sont gelés. On paye un prix défini si l'on ne dépasse pas une certaine consommation d'électricité. Mais pour l'université, même en faisant des économies, le budget est trop serré pour prendre le risque, car la facture sera tout de même plus élevée que les années précédentes. Beata Szczucińska a appris de la pandémie de Covid-19.
La pandémie, c'était quelque chose de vraiment nouveau. Il a fallu réfléchir sur comment fermer l'université et comment vivre enfermé chez nous. D'un point de vue psychologique, c'était vraiment inédit et difficile. Aujourd'hui, je dirais qu'on a tiré certains enseignements de la crise.
On peut travailler depuis chez nous facilement et on sait comment tout mettre en place. Mais d'un autre côté, la situation telle qu'elle est actuellement est aussi très incertaine entre la guerre, les prix et tout ce qui touche à l'inflation. Je pense que malgré tout, c'est impossible de comparer les deux périodes.
En tout cas, pour certains étudiants, c'est une histoire qui se répète après 2 ans de pandémie où ils avaient déjà suivi leurs cours en ligne.
La fermeture de l'école, c'est désastreux pour nous.
Oui, c'est super frustrant.
On est en troisième année et c'est l'année où l'on a fermé à cause du Covid. Et là, encore une fois.
Beaucoup vont alors retourner chez leurs parents pour éviter de payer un loyer et des factures trop élevées dans cette période hivernale. Mais Clémentina, franco-polonaise, redoute ses 2 mois de cours dans le foyer familial à Varsovie.
Ça va être horrible. J'ai peur. Non, mais j'espère que ça va aller. Je vais aller beaucoup à la bibliothèque parce que je ne suis pas capable de rester longtemps à la maison.
C'est aussi l'occasion pour certains élèves de profiter de ces 2 mois et d'un calendrier moins intense pour se reposer, comme Yacoub par exemple.
Pour être honnête, ça va être cool de pouvoir souffler un peu. On travaille dur ici, donc 1 mois et demi plus tranquille, ça va faire du bien. Ça serait mieux d'être ici pour étudier, bien sûr, mais bon, on comprend la situation. On sait que l'université n'a pas beaucoup d'argent, qu'il faut faire des coupes. Mais on accepte, on fait tous partie de cette famille universitaire.
Mais avec les cours à distance, il devient aussi plus facile d'organiser sa vie personnelle. Clémentina espère trouver du travail.
J'espère qu'on aura un peu de temps pour faire d'autres trucs, par exemple travailler. Parce que nous, pendant la première année d'études des acteurs, on ne peut pas travailler. Et je veux faire mon permis de conduire.
Lukasz, lui, est guide touristique à Varsovie à côté de ses études. Il va profiter du retour des touristes dans la capitale après des mois de pandémie.
Je vais avoir du temps pour travailler, ce qui est important pour moi. Mais c'est vrai que depuis février, c'est un peu compliqué d'être guide parce que beaucoup de touristes ont peur de la guerre qui est vraiment proche. Mais d'un côté, on se rend compte qu'étudier en ligne n'est pas la pire chose qui peut nous arriver.
Malgré tout, ces étudiants se savent chanceux. Ils passeront peut-être les 2 prochains mois à distance, mais ils sont tous conscients qu'à l'Est, la situation est bien plus difficile pour les gens de leur âge.
Et on terminera sur cette initiative de la mairie de Barcelone. Alors que la monnaie numérique, les paiements par carte et par téléphone se multiplient, elle a décidé d'installer plus de 150 distributeurs de billets, une mesure destinée aux seniors qui se plaignent de la fermeture de nombreuses succursales de banques. À Barcelone, Élise Gazangel.
56% des agences bancaires ont fermé depuis 2008 en Espagne, dont 33% rien que depuis 2016. En cause d'abord la restructuration du réseau après la crise financière, mais aussi et surtout la numérisation du secteur. Et avec ces fermetures de succursales, ce sont les distributeurs de billets qui ont également disparu, au grand dam des personnes âgées plus habituées à payer en liquide leurs achats. C'est pourquoi la mairie de Barcelone a décidé de réinstaller de nouveaux distributeurs dans la ville cette année. 161 au total seront mis en service dans des installations municipales, faute d'accord avec les banques. Répartis dans des quartiers et endroits stratégiques, on les trouvera principalement dans les kiosques à journaux, mais aussi marchés municipaux ou encore stations de métro. L'objectif est de pallier la disparition de 40% de ces distributeurs depuis 2019. Même si les paiements en liquide tendent eux aussi à disparaître aujourd'hui, ils ne représentent que 66% des achats des Espagnols contre 83% avant la pandémie. Mais la pression des seniors sur leur politique semble être pour le moment payante en cette année d'élection municipale, alors qu'un Barcelonais sur 5 a aujourd'hui plus de 65 ans.
Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot. Abonnez-vous à notre podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. À demain.